Europe Soir,
le 18-20,
Isabelle Millet.
19h20, bienvenue dans votre grand débat sur Europe 1. On s'intéresse ce soir au bricolage, un marché boosté par la crise. Il a vu l'an dernier ses ventes augmenter dans des proportions assez folles pour dépasser les 30 milliards d'euros, tout circuit de distribution confondu. 55% des Français déclarent aujourd'hui bricoler. On en parle ce soir avec Romy Oudguiri, sociologue et directeur de Sociovision. C'est une division de l'IFOP spécialisée dans les tendances de consommation. Avec Virginie Pez, spécialiste en stratégie des marques. Et avec Philippe Moiti, professeur d'économie à l'Université Paris 7 et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Bonsoir, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je le disais, le marché du bricolage a connu des records en 2020, après déjà une très belle année 2019, qui s'était conclue par une croissance des ventes. C'était même la plus belle année à l'époque depuis 2007. Et bien sûr, le confinement, ou plutôt les confinements, sont très liés, Romy Oudguiri, à ce boom du bricolage.
Oui, tout à fait. Les confinements ont vraiment été propices. Nous, on a enquêté sur ce phénomène. 46% des Français, lors du premier confinement, ont bricolé. Et lors du second confinement, ça a été 41%. Donc, il y a une petite baisse, mais ça s'est maintenu à un haut niveau parce que lors du second confinement, il y a eu plus de gens qui sont allés travailler. Et ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes en particulier, il y a la moitié des 25-34 ans qui ont en quelque sorte découvert ou qui se sont initiés au bricolage pour la première fois lors de ces confinements. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que la période très, très étrange que nous sommes en train de traverser produit finalement des nouveaux profils de bricoleurs. Et il est intéressant de voir que, alors, au-delà de ça, vous l'avez rappelé, cette tendance s'inscrit dans des mouvements de fond, c'est-à-dire que depuis plusieurs années maintenant, dans notre société, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de faire par eux-mêmes des choses. Alors, il y a plusieurs motivations. Il y a une motivation économique, évidemment, c'est-à-dire que les gens ont besoin de faire des économies, et donc c'est plus simple de bricoler soi-même quand on a un problème chez soi. Et puis, il y a également de plus en plus l'envie de s'émanciper des intermédiaires traditionnels, de faire vraiment soi-même, surtout dans une société où on a le sentiment qu'avec la numérisation de nombreuses pratiques, on se sent un peu dépossédé. Et bricoler, pour beaucoup de gens, c'est accomplir quelque chose. Et donc, le confinement a accéléré cette tendance. Et je pense que c'est vraiment une tendance d'avenir parce que la maison, dans la période qu'on est en train de traverser, redevient le centre de la vie. Et il y a énormément de gens qui ont envie de la décorer, de l'aménager, de construire d'autres espaces. Et donc, ça va encore porter le phénomène, je pense, pour les années qui viennent.
Oui, c'est ça. Le recours massif au télétravail nous a fait prendre conscience aussi de l'importance d'aménager nos intérieurs, notre cocon. Il faut dire aussi, Philippe Moiti, on a commencé à l'évoquer, que tous les signaux étaient au vert. Il y avait la conjoncture qui était favorable parce qu'on était obligé de rester chez soi. On avait un peu plus d'argent à dépenser parce qu'on n'allait pas au resto, pas au cinéma. Et puis, on avait aussi beaucoup plus de temps disponible.
Beaucoup plus de temps, et puis beaucoup plus de temps à la maison, de surcroît. Et donc, on a eu le temps de voir tout ce qui n'allait pas dans la maison, tout ce qu'on a envie d'améliorer. On risque de vous surprendre. On a posé une question lors d'une de nos enquêtes sur la manière dont les Français ont vécu le premier confinement. On leur a demandé de donner une note allant de moins 5 s'ils n'ont pas du tout aimé, jusqu'à plus 5 s'ils ont beaucoup aimé le confinement. Donc il y a évidemment une grande dispersion dans les réponses, mais la moyenne est à 1,8. C'est-à-dire que majoritairement, les Français ont plutôt apprécié cette expérience. Oui. Et quand on leur demande pourquoi, en listant un certain nombre d'activités ou de choses qu'on a pu faire pendant cette période-là, eh bien, arrive en premier, c'est pas notre sujet, manger à la maison, c'est quand même intéressant, mais très vite derrière, c'est passer plus de temps à s'occuper de son appartement, de sa maison. Donc on savait que déjà avant la crise sanitaire, les Français investissent massivement psychologiquement dans leur habitat, pour un tas de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir, mais ça a été un paroxysme durant cette crise sanitaire. La maison, c'était un peu le cocon protecteur par rapport à un extérieur dangereux. C'était le lieu où la famille s'est retrouvée. On a eu du temps à passer en famille. Et donc, on a eu envie de l'investir là, physiquement, en l'améliorant. En plus, effectivement, on avait le temps. Certains avaient les ressources. Mais je crois que là, il faut être un tout petit peu prudent. Nos enquêtes nous montrent qu'il y a quand même un tiers des Français qui a subi une dégradation de sa situation financière
à cause de
la crise. Et donc, pour eux, effectivement, le bricolage, d'ailleurs, ça peut être une manière, ça a été dit, de faire des économies. Et à l'autre extrémité du spectre, on est plus haut d'ailleurs dans l'échelle sociale, on a plutôt accumulé de l'épargne parce qu'on n'a pas pu dépenser comme on le fait d'habitude. Et cette épargne, elle s'est trouvée disponible pour financer des projets qu'on avait peut-être en tête, mais qu'on remettait à plus tard parce qu'il y avait d'autres priorités, par exemple partir en vacances ou changer sa voiture. Et bien là, on a sauté le pas, quoi. Donc, quelque part, on a les deux motivations qui cohabitent sur des populations assez différentes. une population qui va bricoler un peu par nécessité, parce que la contrainte budgétaire s'adurcit, et une autre qui profite de cette manne qui est un peu tombée du ciel pour réaliser des travaux d'embellissement de, ou de transformation de la maison, d'autant plus nécessaire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait changer.
On vient de parler
du télétravail, il faut aménager le logement pour le télétravail. Il y a eu de tout, hein. Les enseignes de bricolage nous disent que c'est à la fois le coup de peinture pour rafraîchir une pièce jusqu'à la transformation. Le marché de la piscine, par exemple, se porte extrêmement bien, quoi.
Alors justement, on aura dans un instant un responsable d'une enseigne de bricolage. Au premier confinement, la fermeture des commerces, elle a fait chuter le chiffre d'affaires de ces magasins de façon assez spectaculaire. Mais dès la réouverture des enseignes, Virginie Pèze, la demande de nouveau a dopé les ventes, hein.
Oui, exactement. Effectivement, on a eu une demande qui, dès la réouverture des enseignes, a été croissante. Et je pense que c'est lié au fait que le bricolage, finalement, ça a été un des seuls loisirs encore accessibles, finalement. Et là où le bricolage était avant... quelque part une corvée, effectivement, monsieur le disait, pour des raisons économiques, on allait faire soi-même plutôt que de faire appel à des professionnels. Ben là, on se rend compte qu'il y avait une vraie dimension plaisir et que, quelque part, les gens étaient pratiquement en recherche d'activités, peut-être à faire en famille, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, pour occuper leur temps, pour effectivement, monsieur Moati le disait, embellir son intérieur, le transformer, le rendre agréable dans cette période de télétravail ou de période où on est, voilà, c'est plus un lieu de passage, hein, notre maison c'était devenu, et ça l'est encore, oui. Notre lieu de vie. Et donc, effectivement, c'est pour toutes ces raisons que les ventes ont explosé.
Alors, c'était très intéressant ce que vous nous disiez tout à l'heure, Romy Haute-Guéry. Parmi ces bricoleurs qui ont boosté les ventes, on a vu apparaître des nouveaux profils et surtout beaucoup de consommateurs plus jeunes. Vous disiez quoi ? Quelle tranche d'âge ? 26 ?
Oui, c'est surtout les jeunes actifs.
Les jeunes actifs.
Les adolescents.
Les jeunes actifs plutôt urbains, plutôt...
Oui, enfin, dans toutes les... Surtout les urbains, beaucoup, mais un peu dans tous les milieux. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que c'était pour eux vraiment une découverte. En fait, il faut bien voir que pour les jeunes en particulier, qui traditionnellement sortent énormément, hein, c'est un phénomène assez classique d'étape de la vie, hein, à cet âge, on est plutôt dehors que dedans. Et là, étant assignés à résidence de façon durable, eh bien, ils ont redécouvert non seulement le bricolage, mais ont découvert la vie domestique, hein, la cuisine pour certains, le rangement, le tri, etc.
Mais ça veut dire que c'est fini le cliché, ce sont les retraités qui bricolent.
Alors, je pense que les stéréotypes ont la vie dure, comme toujours, mais il est évident que déjà depuis quelques années, il y avait une féminisation des bricoleurs, ça c'était un phénomène qu'on voyait, et qui correspondait au fait que les femmes étaient de plus en plus indépendantes, prenaient leur indépendance, beaucoup vivent seules, s'assument seules, ou même dans le couple ont envie de garder cette autonomie. Et bien maintenant, donc ça commençait un petit peu à briser le stéréotype masculin, et là avec la jeunesse qui arrive, je pense que oui, je pense qu'il y a de la fin de la crise, enfin, une fois qu'on sera sorti, j'espère, de cette crise, on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de choses qui auront bougé dans la société. Vous avez parlé du télétravail, le rapport au travail va changer. Et le rapport au bricolage, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'y intéressent, pour tous les professionnels et les enseignes, parce que avec aussi dans la société française un phénomène, alors Philippe Moitié a parlé de cocon, la maison était depuis longtemps un cocon, mais maintenant elle est en train de devenir un chantier, elle est en train de devenir une ruche, et puis elle est en train de devenir un sanctuaire. C'est-à-dire qu'elle a pris beaucoup de fonctions. Et évidemment, dans toutes ces fonctions, le bricolage devient une activité déterminante.
Bien, on va poursuivre ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. On verra notamment que de plus en plus d'influenceurs surfent, vous verrez, sur cette passion française du bricolage. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h31, c'est la suite de votre débat sur Europe 1. Sans surprise, les confinements ont rendu les Français plus sensibles à leur logement et ont permis au marché du bricolage d'atteindre des sommets l'an dernier, plus de 30 milliards d'euros. On continue d'en parler avec mes invités. Rémy Haute-Guéry, sociologue et directeur de Sociovision, c'est une filiale de l'IFOP spécialisée dans les changements de comportement. Virginie Pèze, qui est spécialiste en stratégie des marques et maître de conférences à l'Université Paris 2. Et puis Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université Paris 7 et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Alors autrefois, quand on avait besoin de faire des travaux chez soi, on appelait un professionnel avec plus ou moins de succès et parfois même des mauvaises surprises, comme Muriel Robin.
Vous êtes carreleur, vous carrelez très bien, mais vous carrelez trop. Trop, beaucoup trop, beaucoup trop, je vous le dis, trop, trop. Quand je vous ai dit s'il en reste, vous les mettrez dans la chambre, je parlais des cartons, c'est-à-dire qu'on prend les cartons, on les met dans la chambre. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a carrelé la moitié de la chambre. Moi, de toute façon, je crois même pas que c'est possible. Il a mis tous les cartons, c'est-à-dire que j'ai moitié carreau, et derrière, ça part tranquille en moquette.
ça marche toujours aussi bien. Muriel Robin qui se moque gentiment des professionnels du bricolage. Alors je ne sais pas si c'est pour éviter ce genre de déboire, mais le fait est que les Français aujourd'hui préfèrent s'y coller tout seuls et pas seulement les papas et les papis. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, toutes les générations prennent du plaisir à peindre, à retaper, à rénover, à faire de son chez-soi un lieu de vie agréable. Et les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'y mettre. On l'évoquait également, boostés notamment par les influenceurs. Car oui, au même titre qu'il y a des influenceurs mode, beauté ou sport, il y a des influenceurs bricolage. Comme vous par exemple, Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 33 ans, c'est ça ?
C'est correct.
Et donc vous êtes youtubeur bricolage, vous avez même deux chaînes YouTube, on va vous faire un peu de pub, Vissez Malin et Atelier Malin, c'est ça ?
C'est exact.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le bricolage, Philippe ?
Ben, moi, je m'y suis pas mis par passion, c'est-à-dire que ça a été plutôt, à la base, un besoin, une nécessité, dans le sens où mon premier projet de bricolage, c'était aménager une entrée qui était un petit peu exiguë, sur laquelle je pouvais pas mettre des meubles classiques du commerce, donc il a fallu faire du sur-mesure, et à cette époque-là, on n'avait pas les moyens, ma femme et moi, de prendre quelque chose qui aurait été fait par un artisan, donc ça a été plus une contrainte à la base, mais en pratiquant, je me suis rendu compte que c'était une vraie source de satisfaction d'avoir fait des choses soi-même. Et doucement, petit à petit, j'ai continué à progresser à force de faire des différents projets.
Et c'est devenu une passion pour vous ?
Alors c'est complètement une passion, tellement que moi j'ai arrêté mon travail précédent pour en faire mon métier à temps plein.
Parce que c'est votre métier du coup, youtubeur.
Du coup maintenant, okay, youtubeur c'est mon métier, ouais.
Génial. Vous proposez des tutoriels, comment ça se passe ? Des formations aussi ?
Ouais, tout à fait. Donc nous, on fait beaucoup de tutoriels sur Internet de manière à pouvoir toucher le plus grand nombre et à aider finalement les gens à se lancer dans la pratique, à prendre déjà du plaisir, à faire leurs meubles. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'il y en a aussi qui ont envie d'apprendre rapidement et qui ont envie de faire des projets assez compliqués rapidement, ben on a aussi des programmes d'accompagnement qui nous permettent du coup de les emmener plus loin et plus profond dans la pratique.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'on a dit en première partie d'émission, mais vous constatez, vous, que les bricoleurs, effectivement, sont de plus en plus jeunes aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi, je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que l'information, elle est beaucoup disponible sur YouTube pour pouvoir bricoler, pour apprendre à bricoler. Et ça, c'est aussi une plateforme sur laquelle il y a un petit peu plus de jeunesse, je pense. Et l'autre raison, c'est que, bah, entre guillemets, les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de se faire plaisir et de pas avoir qu'un travail peut-être aussi. Et le bricolage, c'est une source de satisfaction personnelle et c'est aussi pour ça, je pense, que ça attire beaucoup
les jeunes. Plus jeunes. Et un public de plus en plus féminin également ?
Oui, alors nous, c'est vrai qu'en formation, ça va peut-être vous surprendre, mais on a au moins 30-35% de femmes qui participent à nos formations pour être capables de bricoler, de faire leurs meubles de A à Z seules, sans avoir besoin d'accompagnement ou de quelqu'un qui va les aider. Et elles veulent cette autonomie, elles veulent cette capacité de faire leurs meubles sur mesure, comme elles l'entendent, avec leurs idées. Et c'est souvent, chez l'agente féminine, l'idée qui guide.
Elles savent ce qu'elles veulent, les femmes.
Se faire plaisir, exactement.
Quelles sont les vidéos qui marchent le plus ? J'ai vu que vous cartonnez, par exemple, avec les jardinières.
Ouais, tout à fait. Alors là, en plus, on est pile poil dans la saison. En plus, on organise dans quelques jours, là, le week-end du 1er mai, un défi pour inciter les gens à faire une jardinière. Et c'est vraiment un super premier projet parce que c'est un projet qui est assez accessible à la mise en place. Et c'est extrêmement utile dans cette saison où on va essayer peut-être de faire un petit peu du potager sur son balcon ou dans son jardin, où on a envie d'avoir quelques aromates pour l'été. Et effectivement, pour nous, c'est la jardinière qui cartonne le plus. Ouais.
Et votre chaîne, elle a cartonné aussi donc, pendant le premier confinement, le deuxième confinement ?
Alors, beaucoup le premier confinement, effectivement, parce que les gens étaient chez eux, ils avaient beaucoup de temps à passer. Et YouTube, je pense, a été un environnement dans lequel beaucoup de gens ont passé du temps. Et donc, effectivement, nous, ça nous a permis de rencontrer plein de nouveaux abonnés. Et là, depuis, en fait, moi, j'ai du mal à estimer si c'est simplement la croissance de la chaîne qui fait qu'on a plus de monde ou si c'est le deuxième confinement. En tout cas, le premier confinement a été significatif. Ouais. Après, un petit peu moins pour nous.
En tout cas, suffisamment de personnes qui vous suivent pour que vous en viviez. Hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Moi, ça m'étonne toujours, mais c'est formidable. Tant mieux pour vous. C'est quoi ? C'est avec les pubs que vous arrivez à vivre ?
Alors non, effectivement, en tant qu'influenceur, youtubeur, la publicité, c'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir des fonds. Et nous, si on arrive à gagner notre vie, parce qu'on est deux, c'est grâce aux formations qu'on propose et grâce, voilà, c'est la valeur qu'on propose, effectivement, c'est les formations payantes. Okay. Tout à fait.
Merci Philippe. Rémi Houdguiry, vous aviez envie de réagir à ce témoignage de Philippe ?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a vraiment une révolution silencieuse qui est en train de se produire dans notre pays, hein, dans le domaine du bricolage, mais au-delà, c'est effectivement l'influence de cette sphère de YouTube et aussi aussi des tutoriels. C'est très important d'avoir ça en tête. Il y a désormais 74% des Français qui utilisent les tutoriels. C'est une évolution de 10 points en seulement une année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens désormais s'émancipent, vont chercher eux-mêmes leur mode d'emploi, peuvent essayer, puisqu'il y a une manne d'informations incroyable sur la toile. Et donc, ça leur permet véritablement de se lancer dans plein d'activités. Et le bricolage, je pense, bénéficie de ça. Ça veut dire évidemment pour les enseignes en face la nécessité de réagir parce qu'il y a actuellement une bataille de l'expertise du bricolage, hein, parce que dans ces tutos, il y a de boire et à manger. Mais voilà, il y a un apprentissage.
Donc là, vous donnez la parole très gentiment à Virginie Pesse qui est en face de vous. Alors, elles réagissent comment justement les enseignes ?
Oui, je pense qu'elles sont obligées de s'adapter parce qu'effectivement, on n'est plus du tout sur la cible qu'on imagine du papy qui va bricoler au fond de son garage à la campagne. On est vraiment sur, on l'a dit, une cible qui est beaucoup plus jeune, plus féminine, plus urbaine aussi. Et du coup, les marques, elles se sont à la fois emparées de cette tendance-là et puis elles y ont aussi participé. Dans le sens où elles ont créé toute une ligne de produits qui est faite spécialement pour ces cibles-là, avec des outils qui sont plus simples, qui sont plus faciles, qui sont plus légers, qui sont peut-être plus faciles à utiliser dans des espaces réduits.
Et à ranger dans un petit appartement.
Absolument. Il y a même des services de location maintenant de ces outils. Et donc, elles participent quelque part à cette tendance, elles la soutiennent, de démocratiser ou de rendre beaucoup plus accessible, en tout cas, le marché du bricolage.
Philippe Moiti, est-ce que les jeunes bricolent différemment ? On dit qu'ils sont davantage tournés vers l'économie circulaire et responsable, vers la seconde main pour ne pas surconsommer.
Oui, il ne faut pas généraliser. Effectivement, il y a une surreprésentation de cette tendance chez les jeunes, mais on ne peut pas dire que tous les jeunes s'engagent dans cette direction. Nous, ce qu'on observe dans nos enquêtes, c'est effectivement que les jeunes ont comblé une partie de leur retard par rapport à leurs aînés. Ils sont quand même toujours un petit peu en retrait hein, par rapport aux plus âgés. Le pic hein, de proportion de bricoleurs, c'est dans la tranche des 50-65 ans. Donc, ce n'est pas les papis, mais on n'en est pas loin quand même.
Les
et surtout,
papas.
Oui, c'est les papas, si vous voulez, les grands-papas. Mais surtout, les jeunes sont classés plutôt dans la catégorie des bricoleurs occasionnels et des bricoleurs peu expérimentés. Voilà. Donc en fait, ils font quelque part leurs premières armes. Et puis c'est plus rarement chez eux une passion que chez leurs aînés. Donc c'est vrai que eux, plus que les aînés, ne serait-ce que parce qu'ils débutent hein, par effet d'âge, ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche.
Mais justement, ça peut être un moment de partage exceptionnel entre générations, le bricolage.
Ça peut être ça, mais c'est vrai que ça passe quand même beaucoup aujourd'hui par les réseaux sociaux, ça passe aussi par les enseignes spécialisées qui offrent beaucoup de supports pédagogiques, y compris dans leurs magasins, où on peut prendre des cours. Hein. Par contre, pour les un peu plus âgés, ceux qui sont déjà en couple et avec des enfants, c'est souvent une activité qu'on pratique en famille. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important, ça contribue aux gratifications qu'apporte cette activité. Il y a évidemment le plaisir de faire soi-même, hein, la fierté du résultat, c'est très important dans les motivations, et les motivations économiques dont on a déjà parlé, mais faire avec sa famille, c'est sortir du quotidien, hein, c'est vivre des expériences en commun. Donc ça fait partie du charme de la chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que la proportion de bricoleurs est plus élevée dans les ménages où il y a des enfants.
Où il y a des enfants, oui.
Voilà. Parce que le besoin objectif est plus important. Et puis parce que c'est une activité qu'on mène en commun.
Rémi Houdguéry, c'est intéressant ce que vient de dire Philippe Moiti. Ça donne de l'importance aussi aux enfants, ne serait-ce que si on leur demande par exemple de repeindre un vieux coffre à jouets. On a tout à gagner en fait à faire ça, hein.
Oui, tout à fait. Il y a une dimension de convivialité, sachant qu'en effet, ça reste quand même plus les 35, 45, 50 ans qui le font plus, pour une raison très simple, c'est que souvent, ils sont propriétaires en fait, de leur logement, et donc ils ont à cœur de l'aménager, de le personnaliser, là où les plus jeunes ne sont pas encore dans cette logique-là. Après, il faut bien voir que dans les mois qui viennent, quand on va sortir de cette crise, il va y avoir d'abord un phénomène de rattrapage de la vie sociale, c'est-à-dire que les jeunes là, qui ont bricolé pendant le premier confinement et un peu moins pendant le second, je pense qu'il faut...
Ils vont recommencer à sortir, on l'espère pour eux, évidemment.
Et donc ça va baisser un petit peu, donc ne prêtons pas trop d'espoir, ça reste quand même une activité qui reste une activité d'une personne plutôt mûre, qui a déjà une certaine, une expérience et une propriété à aménager.
Bien. Bah écoutez, je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant. On a encore plein de choses à dire. On sera notamment en ligne avec un responsable de l'enseigne Leroy Merlin, pour ne pas la citer. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h42, suite de votre débat sur Europe 1 consacré ce soir, vous le savez, au bricolage. Quelle satisfaction de se dire c'est moi qui ai posé ce parquet, comme on peut se dire c'est moi qui ai fait ce risotto. Les bricoleurs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes et de plus en plus féminins. On continue d'en parler avec Rémi Oudguéry, sociologue et directeur de Sociovision, Virginie Pez, spécialiste en stratégie des marques, et Philippe Moiti, professeur d'économie à l'Université Paris 7 et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Le bricolage, on l'a vu, c'est un marché très important. Alors comment les commerces se sont-ils adaptés à ce boom? En ligne avec nous, en direct, Guillaume Perraudeau, vous êtes en charge du service relations clients au Leroy Merlin d'Avignon. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1. On imagine que votre enseigne, elle a dû aussi, bien sûr, s'adapter à l'évolution de cette passion française.
Tout à fait, même si les premiers cours de bricolage, nous, on les a créés, on a déjà fait un premier test en 1991, donc on était déjà un petit peu précurseurs sur ce sujet-là. Mais en effet, on a dû s'adapter à l'évolution de nos clients et surtout à leur demande, en fait.
Alors, de quelle façon ?
Eh bien, tout simplement avec les cours que l'on proposait. J'entendais tout à l'heure l'intervention du YouTuber.
Oui.
Nous, ça a été tout simplement le fait de créer des nouveaux cours en fonction de leur demande. Donc, tout simplement de se dire, la première chose, c'était, ça fait quelques années qu'on faisait des cours en présentiel et le confinement a fait qu'on a dû s'adapter et passer sur un mode un petit peu plus digitalisé pour répondre aux attentes de nos clients.
C'est-à-dire qu'on proposait des ateliers virtuels, c'est ça?
C'est exactement ça, tout à fait. On propose des lives Facebook, des lives Instagram, des tutos sur YouTube, des cours en visio. Les clients s'inscrivent sur une plateforme et tout simplement, après, derrière, ils ont un intervenant, Leroy Merlin, un professionnel, qui est là et qui adapte le cours en fonction des attentes de son client.
Vous le disiez, hein, ça fait quelques années déjà que les enseignes de bricolage s'adaptent à ces nouvelles tendances qui ne sont pas nouvelles, hein, même si elles ont été amplifiées par l'effet confinement. Par exemple, aujourd'hui, on peut aller dans une enseigne de bricolage avec sa planche pour la découper soi-même sur place, par exemple, avec du matériel qui est prêté.
C'est exactement ça. En sortie de magasin, sortie d'achat, peu importe, vous arrivez avec vos produits et on met à disposition des outils pour les rendre autonomes. Et il y a toujours la possibilité d'avoir quelqu'un pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous conseiller. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'être au plus proche de nos clients pour répondre à leurs attentes.
Virginie Pez nous disait tout à l'heure que les enseignes aussi s'adaptaient même au niveau du matériel, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des outils, des objets qui sont un peu plus adapté peut-être, un peu moins lourd, un peu plus facile à utiliser. Vous nous confirmez ça?
Oui, je vous confirme. Je ne sais pas si vous vous rappelez des outils qu'avait votre papa ou vos grands-parents, mais c'était des vieux outils bien lourds,
bien rouillés.
bien rouillés. Voilà. Maintenant, ils sont d'autant plus performants, beaucoup plus légers, sur batterie. Vous l'avez dit vous-même que l'on peut ranger dans un petit placard. Donc, les marques, elles ont cette notion-là de rendre le bricolage accessible à tout le monde, que ce soit à des femmes, à des hommes, des personnes de 26 ou 55 ans.
Philippe, vous êtes toujours avec nous en direct ?
Oui, toujours.
YouTubeur, Instagrammeur, Internet joue un rôle évident hein, dans tout ça, on vient de l'entendre. Est-ce que vous avez des bricoleurs qui, une fois que vous leur avez donné le cours, vous postent leurs images, vous montrent leurs réalisations, vous font partager ce qu'ils ont réussi à faire grâce à vous ?
Ah ben oui, complètement. Nous, en fait, dans le cours de bricolage, on se rejoint tous les 15 jours où on a un atelier ensemble pour échanger justement sur les évolutions, sur les questions que les stagiaires peuvent avoir. Et effectivement, régulièrement, on a ce genre de retour. On a déjà eu le retour d'un des stagiaires qui s'appelle Pierre, qui a fait une table à manger pour chez lui. Mmh. Et il nous racontait qu'il avait invité du monde pour manger et que les gens avaient demandé « Où est-ce que tu l'as trouvé cette table ? Elle me plaît bien et j'aimerais bien avoir la même. » Et quand il nous a raconté ça, il y avait une émotion extraordinaire. Ça
c'est
fait partie
c'est
des...
moi qui l'ai fait. Oui, c'est vrai que
exactement,
ça doit faire
plaisir. Exactement, des vraies sources de motivation, quoi.
Oui. Philippe Moiti, ils sont fiers, les bricoleurs, de leur réalisation, comme on poste sa tarte aux pommes, on poste aujourd'hui des photos de ses exploits de bricoleurs. Ça fait partie aussi du jeu.
tout à fait. On a réalisé une étude sur les pratiques de loisirs des Français récemment. On a listé une vingtaine de pratiques, dont le bricolage. Et on a notamment demandé aux gens, pour les différentes activités, qu'est-ce qu'ils ressentaient pendant qu'ils exerçaient cette activité. Et pour le bricolage, on a un bricoleur sur deux qui nous dit qu'il éprouve du plaisir, d'une part, et à peu près la même proportion qui nous dit ressentir un sentiment d'accomplissement. Vous voyez, on se réalise pendant qu'on fait. Alors évidemment, en plus, quand c'est fini, on est fier du résultat, mais pendant qu'on fait, bah, ça génère des gratifications positives. Donc ça contribue quelque part au bien-être. D'ailleurs, on a montré que parmi les gens qui sont satisfaits de leur existence et qui sont en situation d'équilibre psychologique, bah, il y a une plus forte proportion de bricoleurs. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais de manière plus générale, on sait que tous les loisirs où on fait quelque chose, on produit quelque chose, de matériel ou d'immatériel, bah, c'est corrélé au sentiment de bonheur et au sentiment d'avoir une vie à peu près équilibrée. Donc c'est quand même quelque part, se faire avec ses mains, produire quelque chose, ça contribue, c'est un élément, un ingrédient de la recette du bonheur.
Rémi Oudguéry, c'est fort ce qu'il nous dit Philippe Moati, c'est un ingrédient de la recette du bonheur. Le bricolage, ça a vraiment des effets bénéfiques sur notre morale?
Oui, parce que le bonheur vient du sentiment de contrôler sa vie, en fait. Et c'est vrai qu'on vit dans une société, et là ça s'est aggravé avec la période qu'on traverse, où on a du mal à se projeter dans l'avenir, où on a du mal à se dire que ce qu'on fait au jour le jour a un impact sur la société dans son ensemble. Les gens ne croient plus trop à ça, en réalité. Et le bricolage est une façon, c'est une des activités qui permettent d'avoir un impact sur sa vie concrète, de se dire voilà, je fais quelque chose pour moi, ça fait plaisir à moi-même bien sûr, mais aussi à ceux qui m'entourent, vous avez parlé des enfants tout à l'heure, à ma famille, et ça me permet vraiment de m'accomplir, comme l'a dit Philippe Moati. Je pense que c'est vraiment un point important, c'est le retour finalement du faire soi-même dans notre société, qu'on avait un peu oublié ces dernières décennies, et qui revient en force. Et je pense que plus on va aller vers l'avenir, et plus il va y avoir envie, alors ça passe par le bricolage, mais une autre des conséquences du confinement, ça a été que beaucoup de gens ont bricolé du numérique. Il y a aussi les bricoleurs du numérique, ça c'est un autre sujet.
C'est-à-dire quoi? On répare son ordinateur?
On bricole des vidéos, on bricole
etc. Okay.
Oui, mais c'est intéressant parce que c'est aussi une forme nouvelle de bricolage.
Effectivement. Guillaume Perraudeau, vous êtes toujours en ligne avec nous du Leroy Merlin d'Avignon. J'ai oublié de vous demander quels sont les rayons qui ont le plus progressé. Je dis quincaillerie parce que j'imagine que la quincaillerie, sans doute...
Alors, oui, pas forcément la quincaillerie en fait. On a vu une évolution depuis cette année en trois phases. Au début, les clients venaient pour plutôt du petit dépannage. Donc en effet, la quincaillerie en faisait partie. Après, ils sont venus à faire des travaux légers. Et après, comme disait un intervenant tout à l'heure, on est venu à prendre du plaisir dans nos magasins et à venir aller chercher une nouvelle salle de bain, une nouvelle cuisine, un nouveau jardin. C'est les rayons qui ont le plus performé cette année. Les rayons où on passe le plus de temps dans la maison.
Merci Guillaume Perraudeau. Virginie Pez, j'imagine que les ventes en ligne aussi ont été carrément boostées par le confinement et cette nouvelle passion.
Oui, absolument. Les ventes en ligne ont été complètement boostées et on voit même que l'approche des marques a été différente. Avant, quand vous alliez sur un site de bricolage, vous alliez au rayon des perceuses en ligne et puis vous avez tout l'éventail des perceuses qui étaient proposées. Aujourd'hui, les marques, elles ont plutôt tendance à rentrer par le besoin du client. C'est plus « j'ai besoin d'une perceuse », c'est plutôt « j'ai besoin d'accrocher un tableau sur mon mur ». Et à ce moment-là, vous présentez une perceuse, mais aussi peut-être du scotch double face ou quelque chose qui va vous permettre d'accrocher votre tableau pourvu qu'il ne soit pas trop lourd. Donc, on a aussi des marques qui essayent de recréer quelque part sur l'univers du digital ce qu'on peut vivre en magasin où on va avoir un conseiller qui va nous expliquer comment répondre à notre besoin. Mais on mise beaucoup plus sur l'expérience qui va avec cette dimension de plaisir qu'on évoquait tout à l'heure que sur le produit en tant que tel.
Alors, puisque vous êtes la seule femme autour de moi ce soir, je voulais vous poser cette question, puisqu'on a dit que les femmes, effectivement, elles aussi, comme les jeunes, s'étaient mises pas mal au bricolage. On dit souvent qu'elles sont plus patientes. C'est une qualité, ça, dans le bricolage.
Alors oui, c'est sans doute effectivement une qualité du bricolage. Et je pense que ça va aussi avec la volonté des femmes d'être plus indépendantes, d'être plus autonomes, de savoir faire les choses par elles-mêmes. Qui a sans doute contribué à cet essor-là. Et puis, je pense qu'il ne faut pas aussi négliger le rôle qu'a pu avoir la télé et le panorama audiovisuel dans cette tendance-là, puisque
il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui sur le bricolage.
Exactement, il y a beaucoup d'émissions et souvent elles sont portées par des figures féminines en fait.
Hein, on pense à Valérie Damido, évidemment, qui est la pionnière de la vulgarisation du bricolage, qui a d'ailleurs elle aussi monté sa chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller jeter un œil parce que comme à la télé, elle nous apprend plein de choses sans se prendre au sérieux. Et elle dit d'ailleurs que le premier conseil, c'est de s'amuser. Elle a bien raison, public plus féminin. Donc là encore, il y a certains clichés qui tombent, même si moi, j'ai plutôt des amis, je ne sais pas vous, mais des amis IES qui bricolent que des amis IS. Je voulais poser une question encore, le revers de la médaille. Est-ce que finalement, ça n'est pas que les activités des artisans, elles ont chuté l'an dernier. Évidemment, on ne les oublie pas, on pense à eux. Est-ce que cette nouvelle passion française, elle ne risque pas de leur faire perdre des clients, Rémi Houdguéry?
C'est le risque à l'évidence, hein. Mais ça veut dire simplement qu'il y a une pression qui est mise. Alors, il y a la pression conjoncturelle de la crise sanitaire, mais à plus long terme, il est évident que les artisans eux-mêmes doivent réagir. Mais je pense qu'ils ont tous les moyens de réagir parce qu'il y a une demande d'expertise. Simplement, il va falloir répondre à une autre demande qui est celle de la transparence. Parce que souvent, les artisans sont soupçonnés, pour certains, de ne pas être transparents dans leurs prestations. C'est parfois compliqué, etc. Mais je pense que les journées n'ont que 24 heures. Les gens ont plein d'activités à faire. Donc le bricolage, évidemment, ça dépanne et ça permet de faire des économies. Mais je pense pas que les gens aient envie toujours de faire ça. Donc ils vont avoir besoin à un moment donné, notamment pour des travaux de grosses œuvres, etc., de faire appel à des artisans. Donc charge à eux de répondre à cette demande. Et je pense qu'au contraire, la montée en expertise des Français sur le bricolage ne peut qu'être bénéfique à des plus experts qu'eux, puisque c'est un dialogue qui s'instaure et ils peuvent les conseiller de façon plus experte. Donc c'est ça l'enjeu de demain, c'est que les artisans répondent à ces nouvelles exigences.
Oui, parce qu'on s'est rendu compte aussi, à Virginie Pesse, qu'on ne pouvait pas tout faire soi-même. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin de spécialistes, d'artisans.
Voilà, il y a effectivement ça. Hein. Finalement, le bricolage, c'est aussi l'occasion d'entrer dans une dynamique qui va nous donner envie de potentiellement faire plus. Et puis, je voulais aussi souligner que ça va être une chose de vendre, par exemple, un papier peint quand on va être une enseigne de bricolage, mais ça va être aussi autre chose de vendre la compétence nécessaire pour poser le papier peint. Donc, il y a aussi une autre source de valeur, finalement, sur ce marché, qui n'est pas liée au produit, mais qui est plutôt liée à comment je vais accompagner, comment je vais faire monter en compétence les clients pour qu'eux-mêmes trouvent les clés pour faire les travaux tout seul.
L'expérience et le savoir-faire qui sont indispensables aussi.
Exactement.
Merci beaucoup en tout cas à vous tous et ceux qui ne savaient pas trop quoi faire ce week-end confiné. À mon avis, ils vont repenser à cette émission. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Europe 1.